Vous écoutez RFI, les 22h, ici à Paris, 20h en temps universel.
Romain Ozoui.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Et à la une ce soir, qui sera le nouveau président du Pérou ? Réponse dans les prochaines heures ou dans les prochaines minutes. Au lendemain du second tour, le score est très serré entre les deux candidats, Pedro Castillo et Keiko Fujimori. L'analyse dans un instant.
Les interprètes ne courent aucun danger. Le message d'apaisement des talibans d'Afghanistan, alors que tous ceux qui ont travaillé aux côtés des forces étrangères craignent des représailles.
Et puis à la fin de cette édition, nous irons à Roland-Garros, où la tenante du titre, la polonaise Iga Swiatek, est sur le court.
Le journal en français facile.
Le suspense se poursuit au Pérou.
Oui, au lendemain du second tour de l'élection présidentielle, le candidat de la gauche radicale, Pedro Castillo, ne cesse de reprendre des voix à la représentante de la droite populiste, Keiko Fujimori. Les deux candidats sont au coude à coude. Alors, être au coude à coude, cela veut dire que les écarts sont très serrés. La preuve, selon les derniers chiffres publiés il y a 3 heures et portant sur près de 95% des bureaux de vote, Pedro Castillo devançait sa concurrente de moins de 40 000 voix. Alors l'enjeu est colossal entre Pedro Castillo, ancien instituteur, encore inconnu il y a quelques années, et Keiko Fujimori, la fille de l'ancien président péruvien Alberto Fujimori, et qui se retrouve pour la troisième fois au second tour d'une élection présidentielle. Alors ce qui est sûr, c'est que quel que soit le président élu, le chantier s'annonce immense, tant la société péruvienne est divisée. Écoutez l'analyse du politologue Daniel Iglesias.
La société péruvienne a toujours été polarisée. Il faut être clair à ce sujet. Ce sont deux Pérous qui cohabitent dans un même espace géographique, dans un même pays. D'un côté, une zone urbaine beaucoup plus connectée à la mondialisation et qui s'est inscrite dans un processus de libéralisation économique. De l'autre côté, le monde rural, dont on peut dire qu'il connaît historiquement des problèmes de développement. Ce sont des zones beaucoup plus pauvres qui n'ont jamais réellement connu de développement agricole. En revanche, la zone côtière urbanisée dispose, elle, d'une véritable agriculture exportatrice. Au Pérou, il y a donc deux modèles économiques distincts et la zone andine rurale n'est jamais parvenue à s'intégrer dans le processus de mondialisation. Les candidats ont tous deux promis des subventions et un renforcement de la présence de l'État et même un bonus Covid de la part de Keiko Fujimori. Mais avec la récession économique mondiale, nous avons peu d'espoir de voir arriver des investissements étrangers. Tout est bloqué.
Voilà le politologue Daniel Iglesias, propos recueillis par Mélissa Barra.
Au Mali, le colonel Assimi Goïta a été investi président de la transition.
Oui, cela veut dire qu'il a prêté serment. Il s'est exprimé au Centre international de conférences de Bamako. Le Mali, qui se trouve dans une situation instable après 2 putschs en 2 ans, sitôt investi, Assimi Goïta a nommé, comme l'exigeaient les partenaires du pays, un premier ministre civil. Et il s'agit de Choguel Kokala Maïga. Depuis longtemps en politique, hein, il a été 3 fois candidat à la présidentielle.
En Afghanistan, maintenant, le message d'apaisement envoyé par les talibans aux interprètes des forces internationales.
C'est un sujet très délicat. D'abord, on va rappeler le contexte. Les États-Unis ont commencé à retirer leurs troupes en vue d'un retrait total de l'Afghanistan qui est prévu le 11 septembre. Cette perspective s'accompagne d'un certain nombre d'inquiétudes quant à la sécurité dans le pays. Et les interprètes que l'on évoque ce soir sont particulièrement concernés par ces inquiétudes. Les interprètes sont des personnes qui traduisent en langue locale. En Afghanistan, ils ont été nombreux à travailler pour les armées étrangères. Et dans ce sens, ils sont considérés comme des traîtres par les talibans, qui continuent, les talibans, d'exercer une influence importante en Afghanistan. Et les talibans qui, ce lundi, ont affirmé que les interprètes ne couraient aucun danger. Ils ont publié un communiqué. Comment ces interprètes réagissent-ils? Notre correspondante à Kaboul, Sonia Ghezali, a rencontré l'un d'entre eux. Reportage.
Wahidullah Hanafi a 33 ans. Il a été interprète pour les soldats de l'armée française entre 2010 et 2013 dans la province de la Kapisa. Depuis le départ des troupes françaises en 2014, Wahidullah change de maison tous les 6 mois car il se dit menacé par les talibans, dont le communiqué publié ce lundi ne lui inspire aucune confiance.
Des excuses de notre part ne changeront rien pour les talibans. Ce sont juste des déclarations qu'ils font au reste du monde. S'ils trouvent qui nous sommes dans les provinces ou sur les routes, ils nous tueront. Ils n'ont jamais respecté ni montré de volonté de respecter leurs engagements, leurs promesses prises vis-à-vis du peuple afghan ou vis-à-vis du gouvernement. Nous ne croyons pas en leurs promesses.
Pour cet ancien interprète de l'armée française dont la demande de visa a été rejetée 3 fois par la France, l'avenir semble plus que jamais sombre. Sonia Ghezali, Kaboul, RFI.
Dans l'actualité économique, les pénuries de semi-conducteurs sèment la panique.
Oui, les semi-conducteurs sont utilisés dans de nombreux produits, par exemple les voitures ou les téléphones portables. En raison de la pandémie de coronavirus, les exportations sont perturbées depuis plusieurs mois. Les semi-conducteurs sont principalement conçus en Asie et aux États-Unis. Et les conséquences de ces perturbations sont importantes. Ainsi, des usines automobiles se sont retrouvées à l'arrêt. Face à cette situation, l'Europe tente d'être moins dépendante des produits asiatiques et américains. Et dans ce sens-là, une usine de l'allemand Bosch a été aujourd'hui inaugurée à Dresde, en Allemagne, en présence de la chancelière Angela Merkel. Correspondance Pascal Thibault.
Silicon Saxony, c'est le nom inspiré du grand frère californien qui a été donné après la réunification à la région de Dresde. La Saxe abrite le plus grand site de microélectronique d'Europe. Une puce sur 3 fabriquée sur le continent y est produite. La nouvelle usine de Bosch, le plus grand investissement, 1 milliard d'euros jamais réalisé par la société allemande, rejoint dans la région 2400 autres entreprises actives dans ce secteur. Le premier équipementier automobile mondial, Bosch, inaugure avec quelques mois d'avance sa nouvelle usine de semi-conducteurs, alors que les composants font cruellement défaut aux constructeurs et que l'Europe doit rattraper son retard sur ses concurrents, avant tout asiatiques. Angela Merkel a participé à l'inauguration virtuelle de la nouvelle usine.
L'avenir se concrétise à Dresde. Autrefois, le pétrole était l'élixir sur lequel reposait la richesse des nations. Aujourd'hui, notre dépendance à l'égard des semi-conducteurs est plus importante que jamais. Notre but est que l'Allemagne et l'Europe augmentent leur part de marché au niveau mondial. Si on ne joue pas dans la cour des grands, on ne peut pas avoir l'ambition d'être une référence en matière technologique.
L'Europe a l'ambition de produire d'ici 2030 20% des semi-conducteurs dans le monde, soit 2 fois plus qu'aujourd'hui. L'usine de Dresde de Bosch a bénéficié du soutien d'un programme européen à cette fin. La commissaire Margrethe Vestager, qui participait également à la cérémonie, a salué une contribution à la compétitivité européenne. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Enfin, le tennis à Roland-Garros, c'est les 2 meilleurs mondiaux qui poursuivent leur route.
Oui, mais cela n'a pas été facile pour le Serbe Novak Djokovic, qui a bénéficié de l'abandon de l'Italien Musetti dans le 5e set. Djokovic se qualifie pour les quarts de finale, tout comme l'Espagnol Rafael Nadal, 13 fois vainqueur du tournoi, on le rappelle, et facile vainqueur, lui, de l'Italien Sinner. À retenir aujourd'hui dans le tableau féminin, l'élimination de la numéro 4 mondiale, l'Américaine Sofia Kenin, battue par la Grecque Sakkari. Actuellement sur le court, c'est la tenante du titre, donc celle qui a remporté le tournoi l'an dernier, la Polonaise Iga Swiatek. Elle est opposée à l'Ukrainienne Kostiuk. On retrouve en direct de Roland-Garros Eric Mamrut. Eric, où en est-on dans cette rencontre ?
Dans la deuxième manche, nous en sommes, mon cher Romain, avec un avantage d'une manche pour la Polonaise Iga Swiatek, donc toute jeune, qui avait remporté pour la première fois Roland-Garros il y a 8 mois, la grande surprise de tout le monde, du public, des observateurs. Elle poursuit sur sa lancée, Iga Swiatek. Elle a remporté le tournoi de Rome récemment. Elle n'a pas perdu une manche depuis le début du tournoi. Elle continue 6-3 donc en sa faveur face à Marta Kostiuk, l'Ukrainienne, dans la première manche. 2-1 dans le deuxième set. Service à suivre. Marta Kostiuk a 18 ans, elle est 81e joueuse mondiale. Elle s'était révélée il y a quelque temps, il y a plusieurs années, mais elle revient bien, mais pas assez pour menacer donc la Polonaise.
Et qui mène donc 1-7-0. Merci Eric Mabrut, en direct de Roland-Garros. Merci Sylvie. Fin de ce journal en français facile, 22h10, ici à Paris.